Comme chaque vendredi, on vous propose un essai qui éclaire les grands enjeux économiques contemporains. Aujourd'hui, on se plonge dans l'ouvrage co-dirigé par Nora Lustig et Louise López-Calva, intitulé « Diminution des inégalités en Amérique latine, une décennie de progrès ». Et c'est Vera Chiodi qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en économie à l'Université Sorbonne Nouvelle et à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine. Alors c'est un économiste mexicain, Luis López Calva, et une économiste argentine, Nora Lustig, qui se sont associés pour retracer une décennie de recul des inégalités en Amérique Latine dans les années 2000. Qu'est-ce qui les a décidés à se lancer dans ce vaste projet ?
En fait, c'est une décennie qui est assez particulière. On l'a appelée la décennie gagnée, un petit peu en contraposition aux années 80, on l'avait appelée suite à la crise de la dette externe, la décennie perdue. Et en fait, c'est aussi un constat très important de diminution des inégalités dans toute la région, suite à un contexte international assez favorable de prix des matières premières très élevés et taux d'intérêt international très faible. Et voilà le constat de s'interroger sur les sources, sur les causes de cette diminution des inégalités.
Et alors pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de se concentrer sur quatre pays en Amérique latine, l'Argentine, le Brésil, le Mexique et le Pérou ?
En fait, ce sont des pays qui sont, on les appelle donc les pays de revenus moyens, et là où l'accès aux données, c'était, disons, relativement facile, donc l'accès à la production de données statistiques, de bons indicateurs. Et après, ce sont des pays qui ont des similitudes, des différences, des taux de croissance relativement importantes, des programmes de transfert monétaire conditionné qui se sont développés très fortement dans les quatre pays.
Mais avec des régimes politiques différents, on va le voir. Alors d'abord, qu'est-ce qui explique, selon Nora Lustig et Luis López Calva, la hausse des inégalités en Amérique latine dans les années 80 et 90? Ils commencent dans leur ouvrage par faire ce constat.
Les années 80, c'est la crise de la dette externe, donc, et ensuite les années 90, c'est la décennie du consensus de Washington.
Alors expliquez-nous, rappelez-nous peut-être ce qu'est le consensus de Washington, qui est donc décidé, défini par le FMI et la Banque mondiale.
C'est un paquet de mesures que les pays ont plus ou moins tous appliquées dans les années 90. Le Chili l'a fait bien avant, fin des années 70. Et c'est intéressant comment Nora Lustig, et c'est pour ça que je l'ai choisie, elle a un petit peu participé avec des contributions au niveau de la recherche et aussi au niveau des politiques publiques. Par exemple, dans le consensus de Washington. Dans le consensus de Washington, elle a mené aux États-Unis, à Washington, dans les années 90, ce qu'on a appelé le Washington Exchange, donc l'échange à Washington. Donc c'était cette idée que ce paquet de mesures de privatisation des entreprises publiques, de réduction des déficits publics très très importants, était mise en place de manière avec des coûts sociaux très élevés, inégalité, pauvreté, chômage. Et donc, ce Washington Exchange a invité plusieurs ministres d'économie de la région à discuter avec les think tanks, avec Brookings Institute, avec d'autres think tanks de Washington, et les journalistes et aussi des organisations internationales, afin de parler combien c'était difficile de mettre en place ces mesures. Par exemple, l'ex-président vénézuélien Hugo Chavez, ministre à l'époque, était présent.
Alors, ce que vous voulez dire, c'est que Nora Lustig était à la fois observatrice de ce phénomène et en même temps actrice.
Actrice, et en même temps actrice, exactement.
Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que ces programmes d'ajustement structurel, effectivement, ont eu un impact très fort sur les populations les plus vulnérables, qui souffrent le plus en cas d'inflation élevée, et ça a été le cas pendant des années, dans les années 80 et 90, dans les quatre pays qui nous intéressent aujourd'hui.
Exactement. La crise de la dette a comme corollaire, évidemment, cette crise inflationnaire.
Oui. Avec cette idée qu'il n'y avait pas assez de filets de sécurité pour les plus pauvres, et une insuffisante égalité des chances, sans même parler des discriminations qui pouvaient exister à l'égard des femmes, des non-blancs. Tout cela participe de ce mouvement de paupérisation auquel on assiste dans les années 80-90.
Bien sûr, et aussi la diminution des inégalités des premières années du millénaire. Un des deux origines, c'est une transformation, un ajustement dans le marché du travail. Dans les années 90, qu'est-ce qui s'est passé? Ces inégalités ont augmenté parce que, avec la libéralisation commerciale, évidemment aussi produit du consensus de Washington, avec l'importation de technologies, il y a eu une forte demande de travailleurs qualifiés. Donc, dans un premier temps, on va voir dans les années 90, il y a eu une espèce de polarisation dans le marché du travail, donc une augmentation des inégalités du salaire, étant donné qu'il n'y avait pas encore cette démocratisation et d'accès à l'éducation très très importante. Donc il y avait voilà, une polarisation très forte entre une petite fraction dans le marché du travail de travailleurs qualifiés et le reste de travailleurs non qualifiés.
C'est-à-dire qu'à la crise de la dette de 82 a succédé une période de croissance économique, mais qui a davantage profité aux populations qui étaient déjà les plus aisés et les plus qualifiés au détriment des populations moins aisées.
Exactement. Dans les années 90, il y a une augmentation du chômage, de la pauvreté très très importante qui se manifeste par exemple dans la crise de tequila au Mexique, ensuite dans la crise au Brésil, dans tout le cône sud, et qui ouvre la porte finalement au début des années 2000 à ce qu'on a appelé la marée rose.
Et alors qu'est-ce qui explique justement que les inégalités ont commencé à reculer vers le milieu des années 90, dans quel contexte économique et politique est-ce que cela intervient ?
Donc, c'est surtout à partir des années 2000, de manière générale dans la région, il y a deux facteurs qui sont importants. Donc, c'est ce que l'ouvrage essaye d'expliquer. Dans un premier temps, c'est le rôle de l'éducation dans la diminution des inégalités de salaire, parce que le ratio des travailleurs qualifiés sur les travailleurs non qualifiés augmente. Donc dans le marché du travail, vous avez plus de travailleurs qualifiés que de non qualifiés, allant à l'inverse de ce qui se passait dans les années 90. Donc c'est ça le premier volet. Et l'autre facteur qui explique la diminution des inégalités en Amérique latine, c'est d'autres sources de revenus. Et donc, ce sont des sources de revenus qui ne sont pas liées au travail. Donc, on connaît les revenus liés au capital, les revenus liés aux envois d'argent, aux remittances, mais aussi ces grands programmes de transfert monétaire conditionnel qui se sont mis en place dans la plupart des pays d'Amérique latine. Le Mexique a été vraiment le pays pionnier en 96 pour mettre en place Progresa, ensuite appelé Oportunidades. Le Brésil, c'était Bolsa Familia.
Alors avant de venir plus en détail sur ces programmes, en effet, de redistribution en faveur des plus pauvres, un dernier mot peut-être sur cette répartition plus équitable des revenus du travail. Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Vous en avez donné certains, Vera Chiodi. Quel a été aussi le rôle joué par l'arrivée de salaires minimums à la fois au Brésil et en Argentine? Ça a joué un rôle important?
Mais bien sûr, ça c'est une lutte qui venait de la création des syndicats bien avant les années 80.
Mais alors comment expliquer, bien comprendre le phénomène qui est à l'œuvre et qui a permis justement de réduire les inégalités entre les salaires des travailleurs qualifiés et les salaires des travailleurs les moins qualifiés ?
L'accès à l'éducation. Aujourd'hui, évidemment, l'accès à l'éducation, ce n'est plus un vrai enjeu de taille en Amérique latine. L'accès à l'éducation, c'est aujourd'hui plus de 95% pour la plupart des pays. Aujourd'hui, vraiment, l'enjeu, c'est plutôt la qualité de l'éducation.
Alors justement, c'était l'une des grandes innovations au Brésil, la Bolsa Familia. C'était l'idée de donner des prestations sociales en échange de l'assurance que les familles envoyaient bien leurs enfants à l'école.
École, donc oui, ce sont des programmes qui n'ont pas commencé au Brésil. La plupart va attribuer ce type de programme au cas brésilien, à Bolsa Familia, mais c'était le Mexique, avec Santiago Levy, qui l'a mis en place pour la première fois en 96. Donc ce n'était pas Lula. Et oui, c'était un programme d'accumulation de capital humain, finalement, de redistribution des revenus, de soutien aux revenus par un transfert monétaire conditionnel à l'accumulation de capital humain.
L'accumulation de capital humain, c'est l'éducation.
L'éducation et la santé. Et aussi, il y avait une autre composante, qui c'est la composante de genre, parce que ce transfert monétaire était donné aux mères.
Mais alors, c'est intéressant ce que vous dites, Vera Chiodi. Ça veut dire que le Mexique a finalement été un pays pionnier en matière de politique sociale, alors même qu'il était dirigé, à ce moment-là, par un gouvernement de droite.
Effectivement, c'est très bien de dire cela. La plupart des programme, c'est le cas au Brésil, c'est le cas en Colombie, c'est le cas aussi en Mexique. La plupart de ces programmes ont été initiés par des gouvernements de droite, bien avant ce qu'on avait appelé la marée rose. Par exemple, en Argentine, l'actuel président Mauricio Macri était maire de la ville de Buenos Aires.
Donc Mauricio Macri en Argentine, centre droit.
Oui, donc et lui, il avait au même moment, donc qu'à niveau national, il y avait le plan Jefas y Jefas, parce que c'est comme le Bolsa Familia, mais pour l'Argentine. Au niveau de la ville de Buenos Aires, il avait un programme bien plus généreux. C'est vrai que la ville de Buenos Aires est bien plus riche que le reste du pays, mais aussi, ça c'est aussi important, bien plus généreuse envers les étrangers que le programme au niveau national. Et c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, Bolsonaro, il y a cette peur de se dire que comme il y a une espèce de stagnation depuis 5 ans, de cette diminution des inégalités, il y avait cette peur que les...
Que Bolsonaro remette en question la Bolsa Familia au Brésil.
Exactement. Donc, enfin, on y croyait qu'il pouvait annuler. Il vient d'annoncer il y a très peu qu'il allait justement donner un 13e mois de transfert.
Et alors, comment expliquer justement que finalement Bolsonaro mène une politique sociale que l'on n'attendait pas ?
C'est vrai que ces programmes des transferts conditionnels mènent plusieurs gouvernements au pouvoir et ce n'est que 1% du PIB.
Programmes qui vont bénéficier au Brésil en grande partie aux populations non blanches, et Bolsonaro s'est quand même illustré pour un certain nombre de propos racistes, misogynes. Non mais c'est une vraie question. Comment vous interprétez le fait qu'il ne recule pas sur cette question sociale ?
Ces mesures ne représentent que 1% du PIB. Donc retirer ça, enfin vraiment ça pourrait avoir un coût politique énorme parce que ça représente un soutien aux revenus qui existe depuis 15 ans.
Une dernière question sur le Mexique qui, on l'a dit, a été pionnier en matière de politique sociale. Est-ce que c'est aussi lié à l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Canada qui a été signé en 1994? Il y avait cette idée de la part du Mexique de mettre en place des politiques de redistribution pour compenser peut-être les effets de la création de cette grande zone de libre-échange
Oui, certainement, mais pas uniquement. Et encore une fois, ici, Nora Luz, comme elle a vécu au Mexique, parce qu'elle est argentine, elle est allée faire son doctorat aux États-Unis à Berkeley. Ensuite, elle a été prof au Colegio de México. Donc, elle a aussi beaucoup travaillé sur le Mexique. Et c'est elle, finalement, qu'elle révèle une particularité assez intéressante des pays à faible revenu ou revenu moyen, comme ceux d'Amérique latine. C'est cette idée qu'il n'existe pas de politique contre-cyclique. Tous les pays de l'OCDE ont une politique contre-cyclique merveilleuse qui s'appelle l'assurance chômage, qui est en expansion au moment de la diminution du cycle et en rétraction au moment d'expansion dans le cycle. Et l'assurance chômage n'existe pas dans l'Amérique latine, mais de toute façon, ce n'est pas utile pour l'Amérique latine.
Comment ça ?
La structure du marché du travail est très différente. Il y a beaucoup de pauvreté rurale et il y a énormément d'informalité. Donc, il n'y a pas de manière de faire qu'une assurance chômage contribue. Donc, elle a retrouvé quelques exemples intéressants et pertinents de politique contre-cyclique en Amérique latine.
Dernière question, Vera Chiodi. Est-ce qu'il faut redouter aujourd'hui que les inégalités recommencent à augmenter dans certains pays d'Amérique latine ? Il y a des reculs qui ont pu être enregistrés ces dernières années, en particulier en matière d'extrême pauvreté ?
Si on y croit au travail de Nora Luz, j'y crois personnellement fortement, que les deux axes importants de diminution des inégalités sont d'une part les transferts monétaires conditionnés qui sont encore en place, et deuxièmement l'accès à l'éducation. Non, je n'ai pas une vision très pessimiste du futur.
Malgré une conjoncture économique qui ralentit.
Qui ralentit, mais cela n'est pas particulièrement dû aussi à un contexte interne, mais aussi à un contexte international qui, il y a aujourd'hui, de manière très récente, suite à la crise de 2008, les pays développés retrouvent la croissance et donc les capitaux, les investissements, les capitaux internationaux se dirigent de préférence et en priorité plus rapidement aux pays développés.
Merci beaucoup, Vera Chiodi, d'avoir ajouté l'ouvrage de Nora Lustig et de Luis López Calva à notre bibliothèque idéale de l'écho. On reparlera de l'économie sud-américaine plus en détail après la pause estivale. Un grand merci.